si proche, Pierre-Louis Chevalier. Bonjour à tous les auditeurs de Divergent. Bonjour à toi, Richard, qui Bonjour. Revient, hein, tu es, puisqu'on avait déjà
en deuxième semaine.
Initié une émission sur le thème des retraites. Mais on reste toujours dans l'actualité, peut-être encore plus maintenant, puisque la presse présente les prochaines échéances comme la mère des batailles. Hein. On dit que ça va être quelque chose de décisif. Alors on oublie que le gouvernement a parlé de concertation et non pas de négociation. Donc là déjà, il y a eu une arnaque. Et puis peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, rappeler pour les auditeurs qui n'étaient peut-être pas à l'antenne la dernière fois, à l'écoute, il y a quand même aujourd'hui 1 million de retraités qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Il y en a 50% qui touchent moins de 1000 euros par mois. 72% des femmes ne touchent que le minimum vieillesse, qui est
de 700 euros.
700 euros. Alors, bien sûr, pour certaines, comme les hommes décèdent plus tôt, il y a pour certaines, dans certaines conditions, la pension de réversion. Et il faut rappeler aussi que la masse globale moyenne des pensions des femmes est inférieure à ce jour de 40% à celle des hommes. Donc tous ces chiffres, qui sont déjà relativement inquiétants pour un pays qui se prétend à la pointe du progrès, un pays qui hérite de mesures sociales suite à des luttes conséquentes. Aujourd'hui, après la loi de 93 Balladur, après le plan Juppé, se poursuit,
la loi Fillon de 2003.
La loi Fillon de 2003. Hein. Alors, je crois qu'on va prendre un code. Chaque fois qu'on nous dit dans les médias réforme, nous, on dit, on pense régression. Hein, parce que ce qu'on nous présente comme une réforme inéluctable, inévitable, hein, en fait, nous savons hein, que ce sont des régressions.
On le sait et puis on l'a constaté, puisque la réforme de 93 a produit déjà largement ses effets. Donc on peut voir les effets de cette prétendue réforme des retraites de 93 sur ce que touchent aujourd'hui les retraités touchés par cette réforme.
Donc tu me disais déjà que, micro, que par rapport à 93 ?
Par rapport à 93, donc, qui concernait les salariés du privé, en 2003 ceux du public, donc par rapport à la réforme de 93 pour le privé, les salariés du privé ont d'ores et déjà perdu 15 à 20% de leur retraite donc antérieure à cette réforme. Pour le public, donc, c'est 2003, mais le rythme est deux fois plus rapide que celui du privé, donc on a rejoint ce qui était dans le public, on a rejoint le privé en 2008. Voilà, et on glisse depuis 2008, privé et public, au même rythme, c'est-à-dire qu'on est passé aux 40 ans et qu'on est en train de passer aux 41 ans de cotisation pour une retraite à taux plein pour ceux qui auront donc c'est 41 bientôt années de cotisation.
Alors, je rappelle pour les auditeurs que tu es présentement enseignant, mais que tu fus, dans une vie pas très lointaine, inspecteur du travail, que tu es très engagé hein, dans les gens qui sont sur mon pied, tu es très engagé dans la vie, on va dire, syndicale, politique. Hein, tu es très concerné, tu es un citoyen concerné. Et tu as participé aussi, je l'avais rappelé, il y a 2 ans. Tu fais partie de ces gens qui ont contribué à mettre un petit peu au courant les parlementaires du Parti Socialiste.
Entre autres, oui.
Au moment où...
Sur la révision du code du travail, voilà. Oui, c'est-à-dire une réforme, une de plus, bon, qui était censée ne pas modifier le code, mais en fait, qui le modifiait largement en profondeur.
Voilà. Donc, tu les as éclairés un petit peu, tu as fait avec...
Gérard Filoche.
Gérard Filoche, voilà. Alors aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent, lorsque l'on parle de retraite, d'entendre des jeunes hein, qui disent « Oh ben, ils sont totalement résignés, nous, de toute façon, on n'en aura pas ».
Oui, et ils n'ont pas entièrement tort, c'est-à-dire que le gouvernement et le patronat mettent beaucoup en avant sur le fait que les retraites, on ne pourra pas les payer et que donc, à la limite, et c'est un peu le discours qui tienne, c'est très irresponsable pour les plus anciens de ne pas réformer ces retraites parce que les jeunes n'auront plus rien. Et donc, à la limite, les jeunes, ils peuvent penser que c'est la faute des vieux s'ils n'auront plus de retraite parce qu'ils ne sont pas assez prévoyants. Or, en fait, le problème va finir par devenir avenir réel pour les jeunes, parce que effectivement, on casse les retraites de tout le monde. Mais déjà, maintenant, pour les jeunes plus tard, évidemment, si on instaure de nouvelles règles régressives, ça sera valable pour eux. Mais à l'évidence, bon, en faisant ce qu'on fait sur les retraites en ce moment, on touche directement les jeunes. C'est-à-dire qu'en baissant les retraites des retraités, en les obligeant, pour ne pas trop baisser les retraites, à travailler plus longtemps, on organise le chômage des jeunes, donc ils sont touchés directement.
Voilà, voilà, ça c'est important. D'autant que pour la plupart des jeunes, l'entrée dans la vie active est retardée. Il y a des périodes de stage, de chômage, qui font que beaucoup de jeunes peuvent se dire, mais à quel âge atteindrai-je mes 42 annuités de travail pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein?
S'ils ont commencé à travailler après les divers stages ou bénévolat, expérience, insertion professionnelle à 25 ans, on va dire 25, allez 25, 25 et 42, ça fait déjà 67.
Oui.
Voilà. Bon, et dans ce que prévoit le MEDEF, hein, dans ce qu'il espère, bon, on est dans ces eaux-là. Bon, depuis toujours, le MEDEF a envie de tirer la retraite à 65 ans. Hein, ils n'ont jamais avalisé et ils n'ont jamais renoncé à revenir à 65 ans pour la retraite.
D'ailleurs,
c'est un des objectifs, mais ce n'est pas que l'objectif du MEDEF, oui, ce n'est pas que l'objectif de la France, c'est l'objectif européen, voilà, qui a été décidé en 2002 à Barcelone de retarder dans tous les pays de l'Union européenne.
Alors, rappelle quand même, arrêtons-nous sur Barcelone, parce que je crois que pour les éditeurs, même si c'est difficile, d'admettre et de comprendre que ces politiques, on va dire de régression sociale, hein, non pas de réforme, elles ont été cautionnées à la fois par le pouvoir actuel, c'est-à-dire, on va dire la droite, mais en même temps par ces gens qui se pensent de gauche. Et à l'époque, je crois que c'était Lionel Jospin.
Oui, c'était au printemps 2002, le Premier ministre s'appelait Lionel Jospin.
Il revenait donc d'accompagner Jacques Chirac, qui était président. Oui. Donc là, se trouve justifié, pour ainsi dire, l'attitude actuelle des dirigeants socialistes comme Martine Aubry ou comme Manuel Valls et puis bien d'autres, qui disent, mais oui, il est inévitable d'engager des réformes parce que l'espérance de vie...
Oui, il l'avait déjà justifié plus tôt, parce que le rapport Rocard qui disait qu'il fallait... Bon, il disait pas qu'il faut diminuer les retraites, mais il disait qu'il y avait un gros problème, il faut faire quelque chose. Et c'était en fait diminuer les retraites et repousser l'âge de départ légal. Bon, le rapport Rocard datait de 1990, quand même. Donc c'est très ancien. L'alignement du Parti Socialiste sur la vision de la droite et du patronat par rapport aux retraites, elle est ancienne, elle est très ancienne.
Alors, maintenant, on va peut-être aborder quelque chose de plus technique. On parle du COR, ce Conseil d'orientation des retraites.
Là aussi, c'est Jospin.
C'est Jospin qui l'a créé.
Oui.
Alors, cet organisme est censé tirer des conclusions extrêmement alarmistes qui créent dans l'opinion et dans les médias un effet de panique. Il semble donc que l'on soit à la veille d'une catastrophe. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors,
cette catastrophe, je voudrais dire, bon, je ne vais pas reprendre la citation, je l'ai sous les yeux, mais bon, en allant vite, je pourrais lire ce que disaient les ministres en France en 1952, ceux qui étaient au pouvoir. Ils disaient exactement ce qu'on entend aujourd'hui. On ne pourra pas payer les retraites parce qu'il y a le déséquilibre démographique. Bon, il y a de plus en plus d'inactifs, de vieux, et donc on ne pourra pas payer. C'est un leitmotiv et qui est contraire au constat qu'on a tous fait. C'est-à-dire qu'on a pu payer les retraites alors qu'il y avait de plus en plus de vieux, bon, dits non actifs. Donc, y a un mystère qui n'est jamais élucidé, qui n'est jamais dit, évidemment, par le gouvernement ni par le corps. C'est les raisons pour lesquelles on pouvait payer les retraites et pour lesquelles on pourrait continuer à payer les retraites. Donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est un seul élément, en exagérant souvent un peu, mais bon, mais un élément qui est réel et qui, à mon avis, est une bonne chose, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, plus de 60 ans, qui vivent plus longtemps et qui peuvent accéder éventuellement à une retraite. Bon, donc, sur la base de ce constat, ils disent, bah, évidemment, on ne peut pas payer, puisque, bon, sauf qu'ils oublient deux choses. Bon, c'est un mensonge par omission. Le premier, bon, qu'on ne met pas en avant, c'est qu'il n'y a pas que des vieux, il y a aussi des jeunes dans les inactifs. Et que si on fait le rapport de tous les inactifs, c'est-à-dire non seulement les plus de 60 ans, bon, pour simplifier, les moins de 20 ans, pour simplifier, et les chômeurs, bon, si on met tous les inactifs d'un côté et ceux qui travaillent, qui produisent, bon, des revenus de l'autre, bon, ce rapport-là diminue très peu en défaveur des retraites. C'est-à-dire que sur une projection sur les 30 à 40 prochaines années, il va, suivant les auteurs et suivant le point de vue, soit pas bouger, soit diminuer de 8 à 10% au maximum, suivant les rapports gouvernementaux. Donc le déséquilibre qui est celui qui doit pouvoir permettre de dire est-ce qu'on peut payer les retraites ou pas, c'est celui-là, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ce rapport-là ne va pas énormément changer. Donc on pourrait très bien, d'ici 30 ou 40 ans, aussi bien payer et les retraites que les jeunes qui sont en formation, que les chômeurs.
Donc en termes...
Premier mensonge.
En termes de PIB, je crois qu'actuellement, le pourcentage... du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut national.
Oui, qui mesure, même imparfaitement, mais qui mesure la richesse en termes de revenus.
Ouais. Actuellement, il est de 13%, la ponction, on va dire.
Pour les retraites.
Pour les retraites. Oui. Et pour maintenir les choses en l'état, il suffirait que ces prélèvements passent à 15%, ce qui ferait 2 points de plus, ce qui est évidemment, tout le monde serait d'accord pour payer.
Pour maintenir les choses dans l'état, c'est-à-dire sans rajouter une casse supplémentaire qui est la réforme prévue par Sarkozy.
Voilà, sans allonger.
Voilà, donc c'est à peu près 2 points de PIB, ce qui est rien du tout. Ce qui est rien du tout. Et c'est là où je voudrais parler du deuxième mensonge le plus gros, par omission, c'est que si on a pu payer les retraites, c'est pas uniquement parce que le rapport dont je parlais tout à l'heure ne varie pas beaucoup, c'est surtout parce que les gens qui travaillent sont de plus en plus productifs.
Oui.
C'est-à-dire que ce qu'on produit aujourd'hui, il y a un PIB en 2008 qui est de 2000 milliards d'euros. 1950 exactement. Bon, 2000 milliards d'euros. Comme avec la productivité autour de 2%, même moins, par an, qui augmente. Le gâteau, ce PIB, il double à peu près en 30 à 40 ans. Donc en 2050, les 2 000 milliards de PIB actuels, ils seront 4 000 milliards. Et donc si on est passé pour les retraites de 13% actuellement à ce qu'il faudrait passer pour continuer à pouvoir payer les retraites, c'est-à-dire 17 à 18% du PIB, pour les garder comme elles étaient avant, j'allais dire, parce que deux points, c'est pour les laisser dans l'état actuel de la réforme Fillon de 2003 et de 1993. Donc là, il faudrait 2 points de PIB. Pour revenir, ce que moi je pense possible et souhaitable, c'est-à-dire aux 37 ans et demi, et avec une retraite correcte, bon, il faudrait 5 points de PIB de plus. Et ça, c'est... Quand on a un PIB de 4 000 milliards au lieu de 2 000 milliards, bon, les 13% de 2 000 milliards, quand on passe à 18% de 4 000 milliards, il reste une masse grandissante pour l'ensemble des non-retraités. Donc la situation, elle va s'améliorer pour tous dans ce cadre-là. Si on continue à prélever sur le PIB suffisamment pour les retraités, la situation va s'améliorer pour tous. Mais peut-être un peu moins pour les actifs que pour les retraités, si on continue à payer des retraites pour des retraités plus nombreux, ce qui est logique.
Ce que tu pointes est intéressant et relève aussi d'une réflexion, je dirais, philosophique sur le sens du travail. Parce que tu poses qu'il serait souhaitable de revenir à l'état antérieur, c'est-à-dire de travailler moins longtemps, de travailler moins, en fait, pour... permettre à des jeunes...
Et plus nombreux, parce qu'il y aurait moins de
chômage. Et plus nombreux, donc de partager le volume de travail qui existe, plutôt que de voir des gens déprimés parce qu'ils travaillent trop. On voit ces suicides qui se multiplient, ces dépressions. Bon. Et puis des gens qui, eux, dépriment parce qu'ils sont exclus du travail. D'autres qui, alors qu'on leur dit que l'âge de la retraite, c'est 60 ans, bon, beaucoup à 50 ans, 55 ans, sont déjà considérés comme trop vieux et se retrouvent dans des conditions de précarité. Donc, ce que tu exprimes, c'est quelque chose d'une réflexion philosophique, une réflexion qui avait été, entre autres, poussée par... on évoquait l'autre fois André Gorz, dans son livre... Métamorphose du travail et quête du sens, et qui aujourd'hui est oublié par les syndicats. C'est assez dramatique. Heureusement, bon, il y a encore...
Oui, on entend dire... c'est pas que le patronat, mais même, on vit plus longtemps, donc c'est normal qu'on travaille plus longtemps, c'est normal. Non, pas forcément. Surtout avec les conditions de travail actuelles, longtemps, c'est une horreur. Oui. Parce que quand on nous parle de l'espérance de vie, on ne nous parle jamais de l'espérance de vie en bonne santé. Or, l'espérance de vie sans handicap majeur, pour les hommes, elle est de 63 ans et pour les femmes, de 64 ans. Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, quand ils disent on va passer la retraite de 60, 61, 62, 63, ce sont les meilleures années de retraite qu'ils veulent nous prendre. Oui. C'est les années où on est encore en bonne santé statistiquement, oui, et où on peut encore en profiter. C'est ça qu'ils veulent nous prendre. Bon, c'est une horreur. Maintenant, il y a le partage du travail, mais bon, ce qu'on n'a pas parlé, c'est le partage des richesses. Parce que là, bon, voilà. Là, quand on regarde comment les richesses sont produites et surtout comment elles sont réparties entre le travail d'un côté et le capital de l'autre, et l'évolution sur les 30 dernières années, là, on voit, en allant vite, que le gâteau, le partage du gâteau, il s'est déplacé des travailleurs vers les actionnaires, vers les détenteurs de capitaux. Il s'est déplacé de 9% du PIB, 9% du PIB, c'est-à-dire 9% de la richesse. Quand on prend la richesse de 1000 milliards d'euros en 2008, 9% de la richesse, ça fait 180 milliards d'euros.
Oui.
180 milliards d'euros qui sont passés d'une poche dans l'autre. Par an, hein. Chaque année, si on le cumule, parce que maintenant ils font des projections avec du cumul pour oui, faire peur aux gens. Ça,
oui,
c'est par an.
Oui.
Donc si on le multiplie par 30, on voit le nombre de milliards d'euros, oui, qui sont, oui, passés d'une poche,
oui,
dans l'autre. Mais en raisonnant sur un an, 180 milliards d'euros, avec ça,
ça couvre tout ce qu'ils appellent les retraites,
l'assurance maladie, le chômage.
Et on ne parle même pas des niches fiscales. On ne parle même pas des évasions vers les paradis fiscaux.
Oui, oui.
Hein. Donc, je crois que c'est important pour...
Et puis, quand on dit le capital aussi, bon, il y en a qui disent, oui, mais vous comprenez, les profits sont nécessaires pour les entreprises, pour investir. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, ce n'est pas l'investissement qui a augmenté, ce sont les dividendes donnés aux actionnaires. Alors, entre 1980 et 2008, la part qui va aux actionnaires, mmh, c'est-à-dire les dividendes, ce qui n'est absolument pas productif, cette part-là, dans la richesse totale, est passée de 3,2% du PIB à 8,5% du,
oui,
PIB. C'est-à-dire qu'elle a augmenté de plus de 5 points.
Oui.
Mettons 5 points.
Oui, elle a plus
avec
que
ces 5 points, oui, qui sont passés dans la poche des actionnaires, alors là, rien à voir avec l'investissement, ces 5 points couvrent largement les besoins de financement en retraite avec retour aux 37 ans et demi sur les 40 prochaines années.
Donc, on peut dire qu'il y a des raisons d'être optimiste. Tout
dépend
de notre combativité.
Oui.
Hein. Et bon, si modestement, cette émission, elle peut permettre à certains de se dire, mais oui, ben, c'est pas irrévocable. On peut se battre.
Ah, oui,
on,
oui,
doit,
oui,
se battre. Hein. On ne doit pas se laisser bourrer le mou par ces politiques, hein, qui sont au service de leurs intérêts et du capital. Bon, pour la pause musicale, et je vois Élie nous regarde. Et, on va reprendre Jean Ferrat, qu'on a, hein, Ma France.
Parfait.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Voilà, Jean Ferrat, ma France. Une France qui, des acquis sociaux qui, petit à petit, se font grignoter, hein, et on vient de voir que rien n'est pourtant inéluctable. Alors aujourd'hui, pour les auditeurs qui arrivent, je rappelle que l'émission, le thème traité, ce sont les retraites, hein, non pas la réforme, mais les régressions annoncées, programmées sur les retraites. Et l'invité aujourd'hui, c'est Richard Abouzi, enseignant, ex-inspecteur du travail et qui a beaucoup travaillé sur ce thème. Alors, Richard, pour reprendre l'entretien, on pose aujourd'hui dans les médias que le système est déficitaire, qu'il court à la catastrophe, et on incite en quelque sorte, hein, habilement, plus discrètement, depuis l'histoire des fonds de pension quand même. Mais oui, les citoyens, en général ceux qui ont suffisamment d'argent, à cotiser par eux-mêmes. C'est-à-dire remplacer le système que tu avais présenté autrefois par
répartition.
Répartition, ou le compléter par un système par capitalisation. Alors est-ce que tu peux préciser rapidement?
Oui, ça c'est très vite, mais c'est une double arnaque. La première, c'est de laisser croire aux gens que quand ils épargnent individuellement, c'est cette épargne qui va servir plus tard à payer leur retraite. Ça, c'est faux. Que ce soit par répartition, que ce soit par capitalisation individuelle, bon, les retraites, elles sont de toute façon toujours payées au moment où on prend la retraite par ceux qui travaillent à ce moment-là. Donc, s'ils continuent à produire, bon, ben, dans le système de répartition, ben, y a une retraite. Dans le système par capitalisation, à ce moment-là, bon, les fonds qui ont été mis quelque part, ils n'ont pas disparu parce que l'entreprise ou les assurances n'ont pas fait faillite. À ce moment-là, on peut toucher éventuellement une petite retraite. Mais c'est pas l'argent qu'on a mis qui nous revient après. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, il est parfaitement contradictoire de dire plus ou moins discrètement aux gens, ah ben on ne peut plus payer les retraites comme avant, il faut que vous cotisiez, que vous fassiez un peu d'épargne individuelle. Alors, les systèmes se multiplient, mais on ne peut pas dire à la fois les gens ne peuvent pas cotiser un système de retraite par répartition socialisé, juste, et, bon, parce qu'on n'aurait pas les moyens de cotiser, mais on aurait les moyens de placer dans une épargne individuelle. Ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, si on a les moyens de cotiser à une épargne individuelle, on a les mêmes moyens de cotiser à une retraite par répartition. Et c'est là-dessus, bon, qui est l'élément essentiel, parce que dans les discussions, on voit bien au niveau du Conseil d'orientation des retraites et la position du gouvernement. Sarkozy dit « moi, je ne baisserai pas les retraites ». Le corps dit « bon, on veut bien ne pas les baisser, mais il faut trouver une solution ». Et le MEDEF et Sarkozy et le corps disent « bon, oui, mais la... la seule solution qu'on ne peut pas envisager, c'est d'augmenter les cotisations. Bien sûr, ça, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui reste ? Mais il ne reste que deux choses. Si on ne peut pas augmenter les cotisations autant que faire se peut, ben il ne reste que deux choses. Donc déplacer l'âge légal de départ à la retraite et puis diminuer les retraites. Ils ont fait les deux en 93 et en 2003. Ils vont faire les deux maintenant avec cette nouvelle loi. Bon, quand on dit, tu disais tout à l'heure, il y aura non pas une négociation, c'est évident, une concertation, mais c'est même pas une concertation. Mmh. Le texte est déjà prêt. Mmh. Le Conseil des ministres l'a examiné début juillet. Il est évidemment déjà prêt. Simplement, ce qu'on attend, c'est de voir la résistance qu'il y aura et d'espérer que, bon, on n'aura pas à modifier quelques virgules dans le texte qui est déjà prêt. Mais c'est tout.
Et les politiques européennes, qu'elles soient conduites par des gouvernements de droite, qu'on appelle de droite, ou parfois qu'il faut bien encore appeler de gauche, même si dans les faits, ces politiques sont des politiques aussi libérales, hein, est-ce que ces convergences, à quoi tiennent-elles et, l'Allemagne, je sais que le dernier acte du gouvernement Schröder, ça a été de reculer l'âge de la retraite, je crois, pour 2020, à 67 ans.
Je crois que ça vient de loin. Quand on regarde la politique au niveau de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe elle a été constituée dans le cadre de « on va faire un marché de libre concurrence ». Et petit à petit, on a fait le marché des marchandises. En ce moment, on fait le marché des travailleurs, libre. Et avec une concurrence qui s'exerce à tous les niveaux. Et donc ça, c'est le postulat de base qu'ont repris en cœur les gouvernements, qu'ils soient étiquetés bleus ou qu'ils soient étiquetés roses. Et dans tous les traités qui ont été discutés et signés, et dans la Constitution européenne que les peuples consultés ont refusé, mais qu'on nous avait fait quand même avaler, quelle que soit la couleur des gouvernements partout en Europe, c'est le principe de base. Et pour relier ça aux retraites aussi, c'est pas simplement la concurrence qui est dans le traité, c'est également l'augmentation de la date de départ en retraite. Pourquoi ? Parce que dans le traité constitutionnel, il est également dit et spécifié depuis de longues années, même avant la signature du traité, il faut augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi, ça veut dire faire travailler notamment les vieux, plus tard que ce qu'ils travaillent maintenant. Et donc, ils se sont fixés depuis longtemps en Europe des objectifs chiffrés pour faire passer le taux d'emploi des seniors. Donc, et eux, ça va jusqu'à 64 ans dans leurs objectifs, d'un certain pourcentage à un autre, donc l'augmenter. Donc, ils prévoient ça de longue date et ils prévoient évidemment le chômage qui va avec. Mais ça fait partie d'une politique qui est celle de la concurrence.
Une politique dont les citoyens français doivent être bien conscients que en Grande-Bretagne, par exemple, de nombreux retraités, des centaines de milliers, des millions de retraités sont obligés de distribuer des journaux, de distribuer le lait le matin pour compléter des retraites
qui ont été initiées.
En France, ça commence.
Moins que ça, mais ça commence.
Mais c'est quelque chose qui a été initié sous Madame Thatcher et qui s'est poursuivi sur le gouvernement dit de gauche de Tony Blair. Et là, je pense que nous devons être conscients que les mêmes politiques sont menées partout et elles auront, évidemment, si les citoyens ne s'y opposent pas, les mêmes conséquences.
On a l'impression, en plus, que dans cette optique-là, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. On peut toujours trouver moins cher, un travailleur moins cher, mais on peut toujours... Donc, tant qu'on ne résistera pas, ils continueront à avancer.
On va terminer là-dessus, Richard. Je te remercie. On dit au revoir à tous les auditeurs. On remercie Élie à la régie. À bientôt.